cette radio sur Terre du Son.
Bonjour, je suis avec Lou Doyon sur Radio Campus. Lou Doyon, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va.
Bien ?
Ça va bien, ça va bien. Un peu naze, mais ça va.
Un retour du Canada ?
Ouais.
Une tournée ?
Tournée Canada, États-Unis, et on est revenu il y a 5 jours et on a enchaîné des dates en France, donc là un peu
cassé.
Ouais, là je vais avoir mes premiers 2 jours off demain et je pense que la voix en a un peu besoin, le dos aussi et éventuellement la tête. Mais le cœur est rempli, alors c'est ça qui compte.
Oui. Le Lou Doyon, c'est au départ un nom.
Ouais.
Bien sûr,
ouais.
Une maman,
ouais.
Un papa d'ailleurs,
ouais. Parce que il en faut deux.
Il en faut deux.
Pour l'instant, il en fallait encore deux pour faire un
monde. Doyon, c'est super, ouais. Super réalisateur,
ouais.
et un grand monsieur du cinéma, à mon sens,
ouais.
Vraiment. Et la fille de Jane Birkin, bien sûr. Est-ce que c'est une question qui va te paraître un peu bateau, mais est-ce que tu as été extrêmement influencée? Est-ce que tu aurais fait de la musique si tu n'avais pas été baignée dans ce monde-là au départ ?
Mais c'est très compliqué parce que je pense qu'aucun de nous n'aura jamais la réponse d'une manière. J'en sais rien. Moi, à chaque fois que c'est comme qu'est-ce que ça fait d'être leur enfant, j'aimerais bien vivre une deuxième vie en n'étant pas comme ça. Je pourrais être quelqu'un de lucide qui arrive à montrer les pour et les contre. Je pense que ce qui a été joyeux par rapport à d'autres familles d'artistes, entre guillemets, c'est que j'ai plutôt été élevée à l'abri, merci, à l'abri, entre guillemets, de la notoriété. On m'a plutôt gardée à la maison. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'étais entourée d'artistes qui étaient des artisans, en fait, quasi plus que des artistes. Donc je les ai vraiment vus au travail, ce qui est quelque chose d'assez qui construit dans la tête. Et de voir des gens vraiment au travail, une physicalité. Hein, mon père écrivait ses scénarios à la maison, mais surtout après il les tournait, il était souvent cadreur et chef opérateur. Et ça se terminait où on montait les films à la maison, où il avait des vieilles tables de montage des années 50, ma sœur Lola était première assistante, et puis on était là à découper. Enfin, donc c'était physique le cinéma. J'étais jamais allée au Festival de Cannes avant d'avoir un film qui y allait à 16 ans, donc je connaissais pas ce côté-là de la célébrité d'une manière, mais j'ai vu des gens pas se nourrir pendant des semaines tellement ils étaient accaparés par une mission. Et c'est vrai que le point commun, parce qu'il y a ma grand-mère qui était actrice, mon grand-oncle qui était Carol Reed, qui a fait Le Troisième Homme, qui est un immense réalisateur anglais, il y a les cousins, les cousines qui sont tous dans des groupes de rock, dans des groupes de punk, qui sont certains réalisateurs, d'autres sont plasticiens, d'autres... Donc... Mais pareil, ma tante qui était photographe et ma sœur Kate qui était photographe, elles développaient leurs photos à la maison. Donc il y avait le labo de photos, il y avait la salle de montage, il y avait des gens à l'écriture. Moi j'avais mon oncle qui fumait clope sur clope et qui avec son pied bougeait mon petit cousin dans un landau, mais avec son pied pendant qu'il écrivait. Donc il y avait une soif de cet étrange travail, de se mettre au service, quel que soit le projet, que ça marche ou que ça marche pas. Donc il y avait, moi je voyais pas les retombées en face. Je voyais juste des gens au travail. Donc effectivement, de voir ma tante, qui est une plasticienne, mais qui n'a jamais été reconnue, mais qui, elle, bossait pendant des heures à faire couler son plâtre, à faire son truc. Donc c'était assez étonnant, parce que tous les artistes sont des gens très égoïstes aussi. Ils sont obsédés par la chose qu'ils sont en train de faire. Donc enfant, on se balade entouré de gens qui vous voient à peine et qui sont tous en train de fabriquer un autre truc, être en train de faire un autre truc. Donc ça, c'était une sorte de laboratoire fou qui se passait en deux langues, qui se passait où qu'on soit. Donc toutes les maisons de campagne étaient finalement pas des maisons pour inviter des potes, mais des maisons où on avait plus de place pour mettre encore plus de conneries, faire encore plus de labos, faire encore plus de recherches, de trucs. Chaque maison que mon père louait ou achetait, c'était une maison pour faire un film dedans, pour hypothéquer la maison, pour pouvoir faire un autre film derrière. Donc tout était obsédé par le travail. Et un niveau de rigueur, pour le coup, insensé. Je les ai jamais vus faire quoi que ce soit à la légère. Et en même temps, comme tous les artistes, s'en foutre assez de si c'était bien pris ou pas. Donc c'est un mélange de liberté, de travail intense, de plaisir. C'est étonnant quand on est un enfant de se rendre compte qu'ils prennent un énorme plaisir et sans vous. Donc quand on est petit, on est quand même super curieux de se dire mais c'est quoi ce métier qu'ils ont qui fait qu'ils sont plus contents d'y aller qu'ils ne sont de revenir à la maison. Quand moi j'avais tous mes autres potes qui étaient fils d'orthodontistes, qui disaient, où je voyais les parents revenir le soir en disant ah, enfin, je suis trop content d'être avec vous, de vous faire à dîner. Je me disais, mais pourquoi ? Moi je n'ai jamais vu mes parents rentrer en disant ah, enfin, on est à la maison ensemble. Non, eux, ils avaient qu'une seule hâte, c'était repartir. Mais je comprends. Et à la maison, passer Dirk Bogarde. Et puis en plus, c'était des gens, vu que c'est, ils étaient obsédés par des gens plutôt très intelligents. Donc c'est vrai que petite, c'était Nathalie Sarraute qui était à la maison. Qui, c'était des cerveaux. C'était Pierre Dux, c'était Michel Piccoli, c'était... et des gens qui n'étaient pas forcément les plus drôles avec les enfants en plus. Donc c'était nous, enfants, de devenir assez intéressants pour qu'ils vous laissent parler à table. Parce que sinon, il n'y a pas un de ces grands mecs qui nous laissait la parole fastoche. Donc il fallait avoir des billes, quoi. Ouais. Ouais.
C'était un combat ?
Ouais.
Ouais, carrément.
Ouais. Mais que j'avais envie de jouer. Oui, effectivement, peut-être qu'il y aurait eu quelque chose dans ma tête à me dire, mais en aucun cas, va faire médecine, personne ne va t'emmerder. Compliqué, parce que le rapport au plaisir était tellement grand que j'avais soif de cette chose-là. Et d'ailleurs, je le vois, la majorité de mes potes qui ont les mêmes métiers que leurs parents, et ce qui arrive d'ailleurs bien plus souvent que pas souvent, c'est ceux qui ont vu les parents prendre du plaisir. Si tu vois tes parents ne pas prendre de plaisir, je pense que c'est pour ça qu'il y a un petit désir de passer sur autre chose. Si on voit les parents prendre du plaisir... Moi, le nombre de potes médecins qui sont fils de médecins, de potes d'avocats qui sont fils d'avocats, de potes de... Enfin, c'est bien normal que ça donne envie. Et sinon, ça se retrouve. Le plaisir qu'on a, il se retrouve de toute façon dans tout ce qui nous anime.
Mmh. Ça devient... C'est matérialisé.
Ouais.
C'est un plaisir réel et concret.
Absolument. Et je vois la moitié de mes... Tous les musiciens avec qui j'ai toujours bossé, c'est ou des enfants de... parents qui avaient comme hobby la musique et qui se sont fait chier à avoir un vrai job, et on sent que l'enfant a compris et s'est dit non mais moi je vais aller direct dans la musique, ou des fils de musiciens ou de métiers liés à cette étrange chose qu'on fait. Donc je vois dans mon groupe il y en a un qui est fils de patron de boîte de nuit, l'autre qui est fils de parents qui faisaient les brocantes, et tout ça est lié finalement, quelque chose de, c'est une manière de vivre. La foire, la brocante, tout ça, c'est des métiers qu'on comprend, comme les gens, quand je les croise, les gens du cirque, je comprends totalement le... Et j'avais bossé avec des gens dans le cirque, et il y avait des parents super qui faisaient du trapèze et qui disaient mais on a tout fait pour que les mômes fassent des vraies études, et les mômes, je les voyais qui rigolaient derrière en disant on fait semblant, mais à 18 ans on se barre en... et je me disais mais évidemment, une fois que tu as pris du plaisir dans ce monde là et cette étrangeté de te réveiller tous les matins quelque part de différent, de... Évidemment qu'il faudrait qu'il y ait un petit trauma pour se dire que tout ça, on n'a pas envie de le faire. Ouais.
Oui, mais c'est une réponse, la réponse.
C'est la seule que je peux trouver.
Elle est chouette.
Que le plaisir avait été grand pour eux.
Oui.
Et donc on avait envie, et aussi, si je peux mettre une dernière ligne sur cette longue réponse, aussi c'était une manière de... Les artistes sont un peu autistes quand même, ils sont des gens un peu bizarres. Et c'était une manière de les rencontrer. Moi, faire un film avec Jacques, c'était une manière de le rencontrer. Parce que celui qui était à la maison, je voyais bien que l'obsession de Jacques, c'est celui qui fait des films.
Là, on parle de Jacques Doyon, bien sûr.
Donc c'était rencontrer cette personne au travail. Ça donnait envie. De rencontrer, pareil, rencontrer ma mère au travail. Ça m'a fait plaisir. On a fait un film ensemble et parce que c'est pas
film,
la même
d'ailleurs.
Personne. Ouais, mais c'est d'un coup on les voit au travail, on a un respect monumental de se rendre compte que oui, c'est ça qu'ils font en fait. C'est ça qu'ils font. Moi, le père qui revenait crever à la maison, il avait un peu d'intérêt, mais pas plus que ça. C'est quand d'un coup j'ai rencontré l'homme sur son terrain de jeu à lui, où là j'ai compris. Voilà, j'ai compris qui il était.
Et par rapport à la mère, donc Jane Birkin.
Pareil,
en
travaillant
avec
elle. Ouais, ouais. Vous comprenez d'un coup quelque chose. Alors déjà. Je la regardais beaucoup, je l'ai regardée beaucoup, donc je l'ai admirée beaucoup et je l'ai vue au travail. Mais d'un coup, de vraiment être dans le travail à deux, c'est une très belle manière de découvrir les gens.
Oui, ouais.
Et c'est une chance comme enfant d'avoir la chance d'en rencontrer ses parents au travail aussi.
Et réciproquement, non ?
Sûrement. Ça doit être plus troublant pour eux.
Oui, je pense.
Bosser avec ses enfants, ça doit être un truc assez, assez troublant. Ouais.
Si ce n'est que, je crois, deux façons. Soit on connaît très très bien son enfant, et donc on va même choper les subtilités qui sont des fragilités ou des forces.
Ouais.
Soit on le connaît moins, ce qui est là a priori est le cas.
Ouais.
Et ces fragilités et ces forces vont se découvrir
absolument.
Dans le travail.
Ouais. Mais il faut qu'il y ait un endroit de neutralité. Moi, je vois, c'est ce qui est très compliqué à expliquer pour des gens extérieurs. Mais par exemple, un enfant de prof le comprend tout de suite. Moi, Jacques, je l'ai toujours appelé Jacques. Et quand on a fait des films ensemble, on n'avait absolument pas de rapport de famille.
Père-fille.
Absolument pas. Il était extrêmement dur parce que c'était la seule manière d'être. Mais comme les profs qui ne veulent pas avoir leur nom dans la classe, et s'ils les ont, ils les dégomment parce que de toute façon, c'est trop bizarre et ambigu sinon. Donc,
bien sûr.
Donc voilà, moi j'ai vécu un truc un peu comme ça. C'est un réalisateur avec qui j'ai travaillé. Mm-hmm. Et dès que je mélangeais les deux, c'était grosse source de tristesse finalement, parce que c'est pas ça qui se joue. On fait pas des films pour régler des problèmes de famille. On fait des films
absolument.
Pour trouver.
Mm. Absolument. Et au niveau de tes sœurs, ça a été également. T'as un frère également.
J'ai un petit frère.
Oui, tout à fait.
Un tout petit frère.
Un tout petit frère.
Un tout petit frère, ouais.
C'est
ouais.
À ce point-là.
Ouais, ouais.
Ça, c'est plein d'amour, non?
Ah, bah oui, c'est assez dément. Une créature très rigolote qui va faire 3 ans. Donc, c'est vraiment un tout petit frère.
Oui. Et est-ce que c'est au niveau des enfants, du coup, ça vous a rapprochés? Où vous étiez toutes dans cette perspective de savoir mais qui est mon père, qui est ma mère, qui sont tous ces gens, de prendre la parole à table comme tu disais.
Ouais, bah on est rigolo parce qu'on a une vraie structure des années 70. Je veux dire, c'est ma mère, c'est un enfant par homme.
Oui.
Mon père, c'est un enfant par femme.
Mm-hmm.
Et les autres pères de mes sœurs ou les autres mères de mes autres sœurs, pareil. Donc on s'est jamais rencontrés tous. Parce qu'on est, je sais même pas combien de frères et sœurs on serait au total. Moi, je sais combien j'en ai pour moi.
Ouais.
Mais les autres, je.
Les demi, demi, demi.
Les demi des demi, et il y en a plein. Donc moi, j'ai toujours considéré que c'est mes sœurs et mon frère, parce que les demi, c'est par rapport à autre chose. Moi, j'ai pas de par rapport à, donc c'est mes sœurs. Ce qui est joli, c'est que ça offre plutôt une grande tolérance quand je vois des vrais frères et sœurs entre guillemets qui peuvent se prendre la tête. Moi, ça me fait marrer parce que c'est vrai que nous, on a dû accepter que les histoires de nos parents, c'était vraiment pas nos oignons, sinon on n'allait pas s'en sortir. Donc on est un gang qui a accepté que tout ça, c'est pas nos oignons, on peut pas savoir et c'est trop compliqué. Donc non, ça fait une fraîcheur et aussi une vraie curiosité parce qu'on a toutes un élément très fort, différent l'un des autres.
Absolument.
Donc ouais. On a tous des pères très forts, on a tous des mères très fortes, donc ça fait un mélantante. Malgré tout ce bordel, malgré les écarts d'âge qui sont immenses aussi.
Ouais.
Moi, Kate aurait 52 et mon petit frère a 2. Donc, il y a quand même 50 ans d'écart entre mes frères et sœurs. Mm. Donc, ça fait pareil. Ça fait qu'on pourrait faire une émission de télé hyper drôle où les gens auraient vraiment du mal à dire qui est qui dans la famille. Parce que c'est vrai que quand on part en vacances, les gens sont très, très perplexes. On dit, mais alors votre mari? Non, non, c'est mon père. Votre fille, non, c'est ma sœur. Votre frère, non, c'est mon fils. Et on voit les gens devant dire, ok, on va pas chercher, parce que c'est trop singulier. Donc ça, c'est bien, parce que ça ouvre le cœur. Ça ouvre le cœur, tout ça.
Et c'est ce qu'on ressent dans tes disques. C'est-à-dire, il y a une grande générosité.
Mmh.
Et il y a, particulièrement sur le dernier, j'ai trouvé qu'il y avait une grande douceur.
Ouais, ouais.
Et qui était quelque chose de nouveau.
Ouais. Oui, il y a un apaisement.
Oui, mmh. Un apaisement, tout ouais. À fait. Et ouais. Si c'est pas indiscret, c'est dû à quoi tout ça? C'est parce que tu as également créé, si je dis pas de bêtises, une ligne de mode.
Oui, non, ça j'avais fait il y a longtemps.
Ça c'était il y a longtemps.
Ouais, ouais. Non, je pense que ça a été un vrai. C'est très joyeux de trouver son expression, en fait. Donc. De vraiment trouver le chemin qui est le chemin qui vous va dans l'expression. Et je pense que ça c'est très important et que c'est ce qu'on souhaite à tout le monde et qu'en plus moi j'ai de la chance que ça arrive relativement tard par rapport à quand j'ai commencé de travailler. Moi, ça fait 22 ans que je travaille,
oui.
Donc c'est vrai que c'est assez joyeux que ça arrive à un moment donné, mais il y a ouais, quand d'un coup, même s'il y a plein d'à-coups, on aimerait que ça soit fluide, c'est pas encore totalement fluide d'avoir la chanson là, de réussir à la sortir, de réussir à l'enregistrer comme on veut et qu'elle soit bien reçue par le public. Tout ça, c'est tellement de l'alchimie mystique d'un côté, technique de l'autre, donc c'est encore très magique et ça me dépasse beaucoup, mais le plaisir, la connexion qui peut se passer maintenant entre le public et moi, c'est une connexion qui existe et sur laquelle
je
peux dormir un peu tranquille. Donc ça permet de travailler mieux, je pense, parce que ça pose et que c'est plus de l'ordre de la séduction, c'est plus de l'ordre de l'acceptation, c'est plus de l'ordre de
aimez-moi,
est-ce que je peux pas, là d'un coup tout ça s'éteint un peu et on se dit je fais juste ce que j'ai à faire. Et j'espère qu'en face, ça peut être entendu. Et la chance que j'ai, c'est que c'est souvent entendu. Donc ça, une sorte de magie de la vie. Quoi.
Pour finir, on pourrait dire qu'il y a eu une lente maturation et qu'aujourd'hui, il y a une maturité.
Oui, absolument. Avec un retour d'enfance aussi. Quelque chose où je sais que c'est une phrase qui m'a beaucoup plu dans un bouquin de Marceline Sauvageau, qui dit à un moment donné dans une phrase, je me suis revenue. Je me suis arrêtée sur cette phrase en me disant, qu'est-ce que c'est joli cette histoire. Je me suis fait tatouer il y a quelques mois et je me suis dit, oui, j'ai l'impression aussi de revenir à quand on a 5-6 ans et qu'on évolue dans notre imaginaire et que le lien entre l'extérieur et l'intérieur n'existe pas encore, il n'y a pas de frontière en tout cas. Et là, je suis redans quelque chose d'un peu ludique de la vie, j'ai l'impression. On prend du plaisir, on prend du plaisir, on a envie de dire, on a envie de toucher, on touche. Enfin, quelque chose un retour à la curiosité et à la soif animale que j'avais quand j'étais petite. Je crois que j'ai pu enfin dire adieu à la politesse.
Et retrouver la fraîcheur, l'innocence.
Ouais.
C'est ça.
Ouais.
Et c'est ce qu'on sent sur scène.
Ouais.
C'est ce qu'on sent dans ton disque.
Ouais.
Et c'est quelque chose qui nous emporte complètement. Et cette douceur est presque plus puissante que ce qu'il y avait auparavant.
Ouais. Merci, ça me plaît beaucoup.
C'est ce que je pense vraiment.
Merci.
On va se quitter là parce que d'autres journalistes attendent.
On va se croiser sur scène tout à l'heure.
On se croise sur scène, il n'y a pas de problème.
Parfait.
Et je te remercie beaucoup.
Merci.
Loudoyon, c'était vraiment un plaisir.
Merci beaucoup. Merci.
À tout à l'heure sur scène.
Ouais, à tout à l'heure.
Merci.